par Dieu, nous allons lire dans 1 Corinthiens, premier chapitre à partir du verset 17. 1 Corinthiens, premier chapitre à partir du verset 17. Il est écrit ceci. Verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est Paul qui parle. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherche la sagesse. Nous, nous prêchons Jésus-Christ, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà, notre partage va porter sur le fait que la croix est un scandale et une folie pour les humains. Voilà. Donc, c'est écrit au verset 23, nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui existe éternellement, à un moment donné, est venu sous la forme d'un homme. Et a vécu avec les hommes pour leur dire qui était Dieu, pour dire toute la vérité sur Dieu. Et à la fin de sa vie terrestre, il a accompli le but principal de sa venue. Le but principal de sa venue, c'était de porter les péchés de toute l'humanité sur lui, puisqu'il est en ce moment-là, homme comme les humains, mais homme sans défaut et sans péché, de sorte qu'il pouvait prendre les péchés de tous les humains sur lui et être condamné à leur place par la mort à la croix, la mort réservée à des bandits, des grands bandits de l'époque, pas n'importe quel bandit, mais des grands bandits de l'époque, des terroristes de l'époque. La crucifixion, c'était la mort qui leur était réservée. Donc on les suspendait sur une croix, clouée par des trous énormes, et les gens regardaient comme un spectacle, et eux, ils souffraient jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et parfois, on brisait leurs jambes pour accélérer leur mort parce que les gens avaient quand même pitié de leur souffrance, tellement c'était horrible. Voilà l'évangile. C'est que vous et moi, et ayant le péché en nous, nous sommes destinés où nous étions destinés à la condamnation éternelle, à la perdition éternelle, étant des êtres éternels. Puisqu'on est des êtres éternels, on ne peut pas que disparaître. Notre condamnation allait être éternelle. La mort physique n'est pas la fin d'un homme. Il y a une suite. Son âme vit encore. Et c'est cette suite-là qui allait être éternellement dans la souffrance. Et Jésus, en prenant nos péchés sur lui, nous a donné la possibilité de devenir innocents, d'être innocentés par Dieu. De sorte que quand maintenant nous nous trouvons face au jugement de Dieu, nous pouvons dire « mes péchés ont été pris par Jésus et il en a subi la condamnation à ma place ». Vous voyez, c'est ça l'évangile. C'est-à-dire que Jésus prend nos péchés et il nous donne sa justice. Parce que ce n'est pas fini. Il a pris nos péchés, il a été condamné à notre place. Mais lui nous a conféré sa justice. Donc il a mis sa justice, et il nous a mis dans le compte de sa justice. C'est comme si lui, il est dans un véhicule qui entre dans un lieu. Et il nous a mis dans ce véhicule-là. De sorte que quand les gardes demandent le laissez-passer, lui, il montre le laissez-passer, que nous, nous n'avons pas, et nous passons avec lui. C'est ça l'évangile. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous ne serons pas sauvés, ou bien nous ne sommes pas sauvés à cause de notre bon comportement, mais parce que nous sommes entrés en lui, en Jésus. Il nous a mis en lui. De sorte que lui, comme personnellement, il n'a commis aucun péché, aucun mal, il a le droit d'aller auprès de Dieu, le Père, d'entrer au paradis, et il entre avec nous, puisque il a payé pour nos péchés, et il nous a mis en lui, lui qui est juste, lui qui est sans péché, il a le droit d'entrer, on entre avec lui. C'est pourquoi nous sommes appelés à croire en lui. Parce qu'on ne reçoit pas cela juste parce que Jésus a pris le péché de toute l'humanité. Oui, il a pris tout. Mais après, il faut qu'il te mette au compte de ta justice, de sa justice à lui. Il faut que tu entres en lui. Et ça, ça se passe à travers un contrat personnel que tu fais avec lui, où tu reconnais que tu t'es mal comporté, que tu n'es pas bon et que tu sens que le jugement tombera sur toi. Et tu lui demandes le pardon de tes péchés et la fusion avec lui, l'unité avec lui pour vivre comme lui sur terre et entrer avec lui au ciel. Tout cela par sa grâce toujours, donc gratuitement. Voilà l'évangile. Mais il y a un problème. C'est que dans l'humanité, nous ne sommes pas habitués à ce qu'un héros perde la bataille. Un héros finisse par être en apparence vaincu. On n'est pas habitué à ça. Nous sommes en train de prêcher que c'est la mort de Jésus qui nous a sauvés. Parce que nos péchés ont été pardonnés. Parce que lui, il les a pris, donc il a été crucifié à cause de ça. Mais au regard de l'homme normal, être crucifié est une malédiction et une défaite. C'est pourquoi il est écrit, la prédication de la croix est un scandale pour les Juifs. Les Juifs attendaient un Messie qui les délivre de leurs ennemis. Et dans le passé, ils en ont déjà eu. Ils ont eu David comme Messie qui les a délivrés des Philistins, de Goliath. Ils ont eu Moïse comme Messie qui les a délivrés d'Égypte. Ce Messie-là, quand il les délivre avec gloire et puissance. David a battu Goliath avec gloire et puissance. Il délivre son peuple. Lui-même, il est fort, vivant. Moïse, quand il délivre son peuple, il le fait avec miracle, puissance, et il traverse la mer Rouge avec un grand miracle. La mer se sépare en deux. Ils sont habitués à ce genre de Messie qui vient, qui frappe leurs ennemis et qui les délivre. Maintenant, on leur dit que non, le grand Messie, le champion des champions, lui va être vaincu. Ça, c'est pas facile. C'est pourquoi on dit que c'est un scandale pour eux. Quoi? Mais pourtant, ce qui est dit là se trouve dans leurs écrits. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps pour lire Ésaïe 53. Ésaïe 53 prédit la venue du sauveur des Juifs qui va souffrir et qui va porter le péché de tout le monde et qui va mourir, qui va être frappé à la place de tout le monde. Ça le dit clairement. Le psaume 22 en parle aussi. Et bien d'autres écrits de l'Ancien Testament. Mais seulement, vous savez, l'être humain ne veut pas de ce genre de délivrance. Et c'est pourquoi il n'a même pas compris. Ils n'ont même pas compris. Eux, ils attendaient juste un Messie triomphateur, rempli de force, qui frappe leurs ennemis et qui leur donne comme une supériorité sur toute la terre. Voilà, ils attendaient ça. Oh, Jésus est venu pour être le sauveur des Juifs, mais le sauveur de l'humanité également. Il n'est pas venu pour donner aux Juifs la supériorité sur les autres nations. Il est venu pour sauver l'être humain dont fait partie les Juifs. C'est ça qu'il est venu faire. Mais eux, ils attendaient quelqu'un qui vienne, qui frappe les Romains, qui renverse tout et qui les établit, eux, comme race supérieure sur la terre. C'est pourquoi, quand Jésus explique qu'il doit mourir à la croix, qu'il doit souffrir, ses propres disciples sont déstabilisés, ils ne comprennent pas, c'est de la folie. On va lire ça dans Matthieu 16. C'est un scandale. Matthieu 16, versets 21 à 23. Il est écrit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, qui était un disciple de Jésus, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Donc, en quelque sorte, « Non, je ne pense pas que Dieu soit d'accord avec ce que tu dis. Cela ne t'arrivera pas. » Écoutons la réponse de Jésus. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Dieu, lui aussi, est scandalisé. Jésus est scandalisé par la résistance de Pierre. Il dit, « Mais tu me scandalises. Tu veux m'empêcher d'accomplir ma mission. Tes pensées humaines, maintenant, le diable les utilise pour m'attaquer, pour me bloquer. » Parce que pour un homme, comment un héros peut-il souffrir pour sauver des gens? Ça, c'est pas logique. Jésus dit, je vais souffrir. et je serai mis à mort. Mais le troisième jour, je vais ressusciter. Vous voyez que l'homme est tellement scandalisé par la souffrance du Messie et sa mort qu'il ne prend pas en compte le fait que Jésus dit « je vais ressusciter ». Il ne prend pas ça en compte tellement il est scandalisé. Et il faut comprendre que jusque au moment où Jésus va dire aux soldats qui viendront l'arrêter, c'est votre heure, c'est l'heure des ténèbres, Jésus avait échappé à plusieurs tentatives d'assassinat, de lapidation, par la puissance de Dieu. Même au temple, il a chassé les vendeurs du temple alors qu'ils étaient plus nombreux avec des gardes du corps, avec des gens armés. Ils n'ont même pas osé s'opposer à lui. Donc les pierres étaient confiants de ce Messie-là en se disant, oh, mais ce qu'il a fait au temple, si normalement, devait conduire à ce qu'on le lapide tout de suite, qu'on le tue. Mais s'ils n'ont même pas pu contester physiquement, c'est que c'est vraiment le Messie, le Tout-Puissant. C'est lui qui va nous délivrer des Romains et qu'on sort. Et maintenant, ce Messie l'a dit, non, maintenant, je vais commencer à souffrir et je vais être crucifié. Mais le troisième jour, je ressusciterai. Pierre n'a regardé que souffrance et crucifixion. Il a dit, mais non, ça, ce n'est pas possible. Je n'accepte pas ça. Est-ce que vous comprenez que Pierre était un ami de Jésus, un disciple de Jésus, les gens qui devaient le prendre le plus au sérieux. Mais comment celui qui devait le prendre le plus au sérieux n'a pas pu accepter ça? Parce que, bien aimé, c'est un scandale, c'est une folie que de dire que mon héros va me sauver en perdant. Voilà. Ça n'existe pas. Pour nous, ce n'est pas choquant parce que depuis l'enfance, on est habitué à ça. On passe dans les rues, on voit des gens avec des chaînes, avec des médaillons, avec un homme crucifié. On connaît cette histoire à cause de Noël, on connaît cette histoire à cause de Pâques, depuis tout petit. C'est pourquoi, quand souvent moi-même qui vous parle, j'ai lu ce texte-là de scandaliser, vous voyez, ça ne te fait pas un gros impact parce que tu es tellement habitué à ça. Le problème, c'est que cette habitude nous a enlevé la profondeur de ce message. On ne réalise pas à quel point Jésus s'est humilié. On ne réalise pas à quel point c'était un scandale. Et si c'est un si grand scandale, ça veut dire que son acte, parce que c'est ça maintenant l'inverse, c'est ça dont, sur quoi on veut insister. Mais si c'est un si gros scandale, ça veut dire qu'il s'est humilié trop fortement. Et s'il s'est humilié trop fortement, donc notre salut est d'autant plus grand. Donc il s'est rabaissé trop fortement. Parce qu'au point que même son propre disciple ne comprend pas ça, n'accepte pas ça. Et dans 1 Pierre, là c'est Pierre qui réagit, même dans 1 Pierre 1, le même Pierre dit que les anges, même les anges ne comprennent pas. Ils sont dépassés que leur maître, le créateur de l'univers, vienne en petit homme et se laisse frapper et crucifier. Ils sont dépassés par ça. Il est écrit... Il n'est pas écrit qu'ils sont dépassés, ça c'est moi qui le dis, mais il est écrit qu'ils contemplent dans une sorte d'étonnement. Je voudrais vraiment nous rappeler ce scandale. C'est un scandale. Son rabaissement est trop fort, était trop fort. Et vous savez, qu'est-ce qui m'a réveillé encore là-dessus? C'est que je suis en échange avec un musulman qui pose des questions parce qu'il veut me piéger pour me montrer que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et j'ai senti en lui quelqu'un de dépassé lorsque je dis que Jésus est mort pour nous à la croix. C'est là, au fait, on a toujours lu ce texte où on dit que c'est un scandale. C'est la première fois que je vois vraiment quelqu'un de scandalisé, de dépasser. Parce que il en a fait un sujet de polémique pendant plusieurs SMS. Mais il dit, mais où est-ce que c'est écrit? Alors je lui montre des passages qui montrent que, comme ce passage-là où Jésus lui-même dit qu'il doit souffrir, il doit mourir. Il dit, mais il ne comprend pas que vous dites que c'est un sauveur, vous dites que c'est lui le Fils de Dieu, mais je ne pense pas qu'il peut mourir, mais oui, pour le péché. Mais j'ai vu quelqu'un de scandalisé, il ne comprend pas qu'un héros soit faible. Or, la Bible nous dit que s'il a été faible, c'est pour nous sauver. S'il est mort à la croix, c'est pour nous sauver. Il fallait qu'il passe par là pour notre salut. Il a pris notre nature d'homme simple pour pouvoir nous identifier à nous pour nous sauver. Un moustique ne pouvait pas nous sauver. Non, ni un ange ne pouvait nous sauver parce qu'on n'est pas de la même nature. Il fallait un homme de la même nature que nous, mais sans défaut, sans péché, pour qu'il soit capable de prendre nos péchés. Parce que si lui-même avait aussi des péchés, il ne pourrait pas nous sauver parce qu'il devait d'abord commencer par lui-même. C'est ça l'évangile. Et c'est un scandale. J'ai senti le scandale dans le cœur de cet homme. Il est dépassé au point qu'il a passé beaucoup de temps à vouloir me convaincre que c'est une fausse théorie. Vous voyez? Et je me suis souvenu de Pierre. J'ai dit, mais ce n'est pas étonnant. C'est que la réaction de cet homme. Pierre a eu la même réaction. Et vous savez combien de fois Jésus a fait cette annonce que je viens de vous lire dans Matthieu 16? Il a fait ça 3 fois. Pourquoi il a fait ça 3 fois? Parce que c'était quelque chose de lourd à comprendre et accepter par les disciples, par ses propres disciples. Il a dû répéter ça dans Matthieu 17 et dans Matthieu 20. Leur redire ça, je dois passer par là. Parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas accepter ça. Que ce n'est pas normal. Le Messie sauve. Le Messie triomphe des gens plutôt qui le menacent. Il ne se laisse pas faire. C'est lui qui bat, c'est lui qui gagne. Mais lui, il annonce qu'il va être dans la souffrance et mourir à la croix pour nos péchés. Bien-aimé, c'est un scandale. Ce n'est pas normal. Ça ne se passe pas comme ça dans le monde. Mais Jésus a accepté que ça se passe comme ça. Et il a commencé depuis longtemps. Quand il est dans l'eau, Jean-Baptiste lui dit, « Moi, je ne peux pas te baptiser. C'est toi qui es mon maître. C'est toi qui es mon Seigneur. » Il dit à Jean-Baptiste, « Il faut que tu fasses parce que les choses doivent se faire ainsi. » Voilà. Donc même Jean-Baptiste refuse de le baptiser. Parce qu'il dit, « Mais comment je vais baptiser mon Seigneur ?» Il dit, « Non, je dois jouer le rôle d'un homme, vivre comme un homme normal, parce que je dois prendre le péché de tous les humains. » C'était un scandale pour Jean-Baptiste, mais il a cédé, il a obéi. Et là, nous voyons scandale pour Pierre, parce qu'ils ne comprennent pas que le Messie, ils sont habitués, leur Messie, avant Jésus, l'image du Messie qu'ils ont, c'est David. L'image du Messie qu'ils ont, c'est Moïse. Mais non, mais Moïse ne sait pas. Moïse a triomphé, il nous a sortis avec puissance et gloire de l'Égypte. Mais David a triomphé de Goliath. Par la suite, il est devenu notre roi puissant. Il a triomphé de tous les ennemis qui nous environnaient. Mais comment Jésus va dire qu'il va mourir et souffrir à la croix? Bien-aimé, c'est ça la réalité du salut. C'est un scandale. Le Créateur de l'univers qui vient comme un homme se faire taper et aller à la croix comme un bandit et mourir. Mais c'est ça notre salut. S'il n'est pas passé par là, s'il n'était pas passé par là, nous ne serions pas sauvés, nos péchés seront pris par qui? Il fallait que quelqu'un prenne nos péchés parce que nous étions condamnés à cause de nos péchés. Vous allez me dire, mais Dieu pouvait pardonner comme ça simplement. Mais ça ne se passe pas comme ça dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, quand tu es entaché, c'est fini, ça ne s'enlève pas. Pour que ça s'enlève, il faut que quelqu'un d'autre paye à la place. C'est ce qui explique les sacrifices qu'il y avait dans l'Ancien Testament. C'est comme si l'animal prenait la place de l'homme. Mais c'était des sacrifices insuffisants puisqu'un animal n'a pas la même valeur que l'homme. C'était la préparation au véritable sacrifice de l'agneau de Dieu, Jésus. Et ça, qui pouvait le croire? C'est d'ailleurs le comme ça que commence Ésaïe 53 qui explique ce sacrifice-là, l'œuvre de la croix. Là, ça commence par qui a cru? Qui peut croire à ce que on nous annonce? Personne. Jean-Baptiste a été dépassé, même s'il avait reçu la révélation. C'est Jean-Baptiste, quand il voit Jésus, dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Mais quand il faut pratiquer ça, baptiser Jésus dit « Ah non, moi je ne veux pas baptiser mon Seigneur. » L'apôtre Pierre n'y a pas cru. Jésus a dû répéter ça 3 fois. Mais malgré ça, quand c'est arrivé, ils étaient déstabilisés comme morts. Ils ont cru que c'était une défaite. Pourtant, en même temps, ils disaient qu'il allait ressusciter le 3e jour. Maintenant, quand ils l'ont vu ressusciter, et quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est là qu'ils ont tout compris. Ils ont compris que c'était le système de Dieu pour nous sauver. C'était le seul moyen de nous sauver, c'était cela. Que Christ prenne nos péchés et soit condamné à notre place. Subisse la colère de Dieu à notre place. Vous voyez à quel point c'est un scandale. J'en parle. Le musulman, là, il est dépassé. Il n'est pas. Il dit non, mais comment ça, il peut mourir pour nous? Oui, c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la bonté de Dieu. Et quand on saisit ça, on est changé. Vous savez pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Premièrement, il y a le fait que beaucoup ne sont pas conscients de la gravité du péché. C'est pourquoi il faut d'abord que le Saint-Esprit convainc les gens de péché, de justice et de jugement, comme c'est écrit dans Jean 16, 8. Il convaincra le monde de péché, c'est-à-dire que tout le monde a le péché. Il convaincra le monde du jugement, que les gens sentiront qu'il y a un jugement qui les attend. Et il les convaincra qu'il n'y a qu'un seul juste, c'est Jésus-Christ. Il faut que le Saint-Esprit fasse d'abord ce travail-là. C'est ça qui, quand quelqu'un maintenant est dans ce désespoir lié à ses péchés, il peut accepter l'évangile. Il peut accepter que Christ meure pour lui, mais quelqu'un de normal trouve ça incompréhensible. Vous dites à un contemporain français d'aujourd'hui, Jésus est mort à la croix pour tes péchés, tout ça. Il ne comprend pas, puisque c'est un scandale, c'est une folie, il n'y a pas de logique. Les héros, c'est comme les John Wayne, c'est comme les Schwarzenegger. Il vient, il frappe tout le monde, et puis allez, il vous délivre. Mais là, on nous parle d'un héros qui prend ta place dans ton péché, en prenant ton péché, il prend ta place dans ta souffrance et il meurt pour toi. C'est comme ça qu'il a triomphé des forces des ténèbres. Comment comprendre ça? Mais c'est ce que nous dit la Bible. Mais maintenant, quand on a accepté ça, parce qu'on est dépassé par ses péchés, on accepte le salut, on comprend tout. Vous savez, qu'est-ce qui se passait à la croix? À la croix, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que les forces des ténèbres se sont dit, on le tient. On le tient, on va l'éliminer. Et pendant qu'ils lâchaient toutes leurs munitions sur lui, lui, il restait toujours vivant. Alors, ils se sont employés à finir tout leur arsenal. C'est pourquoi il est écrit dans Colossiens 2, 14, 15, qu'il les a dépouillés, c'est-à-dire que tout leur arsenal spirituel a été épuisé à vouloir achever Jésus-Christ. Maintenant, quand ils ont fini tout leur arsenal, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Maintenant, de moi-même, je vais mourir, parce qu'il a dit dans Jean 10, 18, personne ne lui ôte la vie. Lui-même, il s'enlève la vie et puis va la redonner. Dans Jean 10, 18. Mais il fallait d'abord qu'il épuise les munitions du camp adverse. C'est ça, bien-aimé. Quand votre ennemi n'a plus de munitions, mais il est vaincu. Même si tu ne l'as pas encore tué, vous savez, dans certains films de western, deux personnes se tirent dessus et puis il y a un qui n'a plus de cartouche. Et ils sont face à face. Non, mais c'est fini. On ne l'a pas encore tué, mais c'est fini. C'est fini. Et bien, c'est ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres. Jésus à la croix, lorsqu'il a tout aspiré comme attaque du monde des ténèbres, il a tout, il les a vidés de tout ce qu'il pouvait avoir comme ressources. Il s'est dit, ben c'est réglé. Son sang a coulé. Au niveau de Dieu, c'était aussi réglé pour le pardon de nos péchés. C'est réglé pour l'affaiblissement des forces des ténèbres, le dépouillement des forces des ténèbres. Il a dit, tout est accompli. Maintenant, je peux mourir pour produire une nouvelle vie par ma résurrection. C'est ça qui s'est passé à la croix. Aujourd'hui, nous comprenons cela par la grâce de Dieu. Donc, le deuxième point qui fait que les gens ne comprennent pas cela, parce que pour comprendre ça, il faut que Dieu lui-même se révèle à toi. Ça pousse à l'humilité. Si quelqu'un veut jouer le costaud, Dieu va aussi lui résister. Mais lorsque quelqu'un réalise qu'il est faible, qu'il est petit, qu'il y a trop d'inconnus sur terre et qu'il exprime une certaine soif de voir Dieu se révéler à lui, ben Dieu peut lui révéler l'œuvre de la croix. Certains ont reçu la révélation de l'œuvre de la croix sans forcément d'abord recevoir, sentir le poids de leur péché, mais ils ont été touchés de voir quelqu'un mourir pour les autres. Quand ils ont vu ça par la révélation divine, c'est là que par la suite, ils ont compris pourquoi il a fait ça pour les péchés et tout ça est venu. Il y a premièrement le poids des péchés qui pousse à croire à cela et deuxièmement, il y a la révélation du Saint-Esprit qui est donnée qu'aux gens simples. Et c'est pourquoi, quand on demeure orgueilleux, ça reste une folie pour nous. Les orgueilleux ne peuvent pas comprendre qu'un héros meurt pour sauver. Un héros tue plutôt pour sauver. Là, c'est le héros meurt pour sauver. Mais un orgueilleux ne peut pas comprendre ça parce qu'il s'identifie pas à ça. C'est quelque chose qu'il n'accepte pas parce que les humains, vous savez, quand nous regardions les films autrefois, on s'identifiait au héros. Maintenant, s'identifier à un héros qui meurt, ça, c'est pas reluisant. Et les gens, dans leur orgueil, n'acceptent pas Jésus. Parce que c'est un héros qui meurt. Quoi qu'il ressuscite, au fait, tellement ils sont concentrés sur les souffrances et la mort de Jésus, ils oublient la résurrection. Aujourd'hui, nous voulons nous rappeler ces choses-là. Christ est mort à la croix pour nous sauver. Et si c'est un scandale, voilà, après avoir donné les deux raisons qui font que les gens ne comprennent pas ça, je veux dire, mais la conséquence de ça, c'est quoi? Si c'est un si grand scandale, c'est que notre salut est très, très grand. Nous voulons dire à chacun d'entre nous, saisis un salut aussi puissant pour vivre une résurrection glorieuse. Saisis ça. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus est tellement grand que certains humains ne l'acceptent pas, ils ne trouvent pas ça logique. Alors donc, c'est qu'il s'est trop humilié. Bien-aimé, que l'on dise que on a vu le président en tenue de sportif, bon, en tenue en survêtement de basketteur. Bon, se dire, ah bon, c'est curieux ça, le président en survêtement de basketteur. On peut encore accepter ça. Mais qu'on vous dise qu'on a vu le président en train de, dans un camion d'éboueur, à 5h30 à Rouen, en train de ramasser les poubelles, là, ça va choquer. Beaucoup diront, c'est un sosie. Tout le monde dira, mais non, c'est faux. C'est... Maintenant, quand maintenant on te confirme que c'est vrai, tu vas te dire, mais alors pourquoi il a fait ça? Voilà. Quand on dit, mais le Fils de Dieu meurt à la croix, première réaction, c'est faux. Maintenant, quand on te dit, c'est bien vrai, c'est, ça s'est passé comme ça, tu vas te poser la question, mais pourquoi? La réponse est la suivante. Pour que tu sois sauvé et que ton salut soit grand. C'est ça. Le scandale va avec les résultats. Ça va ensemble. Plus le scandale est grand, plus l'écart est grand, plus la conséquence en sera grande. C'est ce que je veux qu'aujourd'hui nous comprenions, que moi-même, j'ai compris. C'est-à-dire, quand j'ai vu ce musulman-là, hyper choqué de ça, ça m'a fait prendre conscience que moi-même, je ne réalisais pas la grandeur du scandale. J'ai vu un homme scandalisé. Et nous, comme depuis petits, on sait qu'il est mort à la croix. On a étudié dans des écoles catholiques. On le sait. Même dans le milieu humain, il y a les Noëls, il y a tout ça. Mais il y a des gens qui ont vécu dans des pays où il n'y a pas ça vraiment fortement. Ils ont vécu que dans des familles musulmanes. Ils se sont habitués à des formes de héros. Les Juifs se sont habitués à leur forme de héros. Même si en réalité, les Juifs n'ont pas de grandes excuses parce que ce que Jésus a vécu est déjà dans leurs Écritures. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé au désert? Comment Dieu a fait pour sauver les gens? Il a fait élever un bâton, un serpent en bronze, et avec suspendu sur un bâton, de sorte que les gens, en regardant le serpent de bronze, soient sauvés lorsqu'ils étaient piqués par des serpents venimeux. Et Jésus a expliqué ça à Nicodème. Il a dit, mais ce qui va m'arriver, c'est ce qui s'est passé dans le désert, quand Moïse a élevé un serpent, moi aussi je dois être élevé afin que ceux qui vont regarder à moi soient sauvés. Donc moi aussi je vais être crucifié. En quelque sorte, comme le serpent avait été crucifié dans le désert, le serpent de bronze. Il n'y a pas que ça qui montre ce que Jésus allait vivre dans l'Ancien Testament. Je vous ai cité Ésaïe 53, mais il y a aussi, vous vous souvenez de la mort de Samson. C'est vrai qu'il y a eu des héros qui ont triomphé, qui ont fait des exploits, comme Samson lui-même. Quand il était vivant, il a fait des exploits, il a tapé des ennemis, tué des ennemis, mais sa plus grande victoire, la grande victoire de Samson, a été obtenue où? Au moment où on lui a crevé les yeux et il est devenu esclave en train de pousser à la place d'un âne. De tourner le moulin et de tourner la meule dans un moulin. Et un jour, il y a eu des festivités de Philistins qu'il avait retenus prisonniers. Ils l'ont pris pour qu'il joue comme le fou. Hein. Vous savez, comme dans les foires, on amène des gens pour montrer un spectacle. Certains gens qui sont très, très, très massifs ou bien très grands. Voilà, on les appelait des bêtes à foire. Voilà, donc on en amène. À l'époque, les humains qui avaient des formes compliquées, on les amenait à la foire. Ça faisait du spectacle. Eh bien, on amène aussi Samson dans ce lieu-là pour faire spectacle. Et c'est là que l'Esprit Saint le saisit à nouveau. Et il dit, puisqu'il était aveugle, il dit à quelqu'un de l'approcher près de deux colonnes qui soutenaient cet édifice-là. Et quand on l'approche des deux colonnes, qu'est-ce qu'il fait? Il écarte les bras. Alors, quand on écarte les bras, c'est quelle forme? C'est la forme de la croix. Il écarte les bras et il pousse les deux colonnes. Et tout le bâtiment s'écroule. Et lui et les gens qui étaient là, tous ils meurent. Et quelle a été la conclusion? La conclusion de ce texte sur Samson dans le livre de Juges. Ce texte dit ceci, dans Samson a tué dans sa mort plus de Philistins que pendant sa vie. Donc la mort de Jésus, de Samson a produit une plus grande délivrance que sa vie. Comme j'ai dit, le premier point, c'est que si c'est un si gros scandale, c'est que notre héritage, le résultat de ça dans nos vies, doit être terriblement puissant. Que chacun s'en souvienne et cherche cet héritage-là. Si on te dit, par exemple, que tes ancêtres ont travaillé 500 ans sans profiter de ce qu'ils ont produit comme travail et ils ont mis ça de côté pour toi pendant 500 ans, tes ancêtres ont travaillé 500 ans. Mais ils n'en ont pas profité parce qu'ils réservaient ça à leur héritier qui viendra 5 siècles plus tard. Ça veut dire que ta richesse est comment? Et maintenant, si tu restes là, les mains vides, à traîner comme tout le monde, on va te prendre pour qui? Pour un fou. Alors que tes ancêtres ont fait 5 siècles de travail acharné, et toi tu es là à traîner comme tout le monde. Tu devrais rechercher le trésor qui est lié à ce sacrifice de tes ancêtres. Alors là, aujourd'hui, on nous informe que la mort de Jésus à la croix est un scandale. Donc ça veut dire que derrière ça, il y a un résultat époustouflant que nous devrions tous chercher. Deuxièmement, bien-aimés, quelle leçon nous tirons de tout ça? C'est que le système de Dieu, parce que Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si Jésus a sauvé par la croix, nous aussi, ses disciples, nous sommes appelés à sauver comment? Par la croix. Nous lisons rapidement 2 Corinthiens 12, 1 à 9. 2 Corinthiens 12, 1 à 9. Bien-aimés, nous sommes appelés à devenir doux, simples et faibles pour la gloire de Jésus. C'est ça l'œuvre de la croix. Nous allons parler d'un monsieur qui a non seulement fait de grands exploits avec Dieu, bien sûr c'est Dieu qui a accompli à travers lui, mais ça passe à travers lui quand même, mais il a eu des visions terribles. Il a été emporté dans le troisième ciel, il a vu des choses extraordinaires que personne n'a jamais vues. Mais écoutons ce qu'il dit maintenant. Il s'agit de l'apôtre Paul. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, il s'agit de lui-même, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Il dit, j'ai fait tellement de choses avec Dieu et j'ai eu des visions extraordinaires. Donc de sorte que si je pouvais me glorifier, ça ne serait pas faux. Mais je ne peux pas le faire. Parce que si je le fais, ça veut dire que c'est moi qui les ai produites, ces choses-là. Ou bien que je suis grand, mais en réalité, je ne le suis pas. C'est pourquoi je ne peux pas le faire. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis grand. Alors que c'est juste Dieu qui m'a utilisé. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ce que Dieu fait en moi, a fait avec moi, de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, de même que nous avons été sauvés par la croix, nous devons exister dans le même, à travers le même système. Ça veut dire, quand nous nous affaiblissons à cause du Seigneur, le Seigneur déploie une grande puissance à travers nous. Ça veut dire quoi? Que le chrétien doit se comporter comme étant le plus petit dans son entourage. Le chrétien doit se comporter dans une parfaite douceur parce qu'il ne compte pas sur la force du langage, il compte sur l'Esprit de Dieu. Il imite son Seigneur qui, par sa mort, a sauvé toute l'humanité. Et après cette mort, il y a eu la résurrection. Donc, le chrétien sait maintenant que quand il s'affaiblit à cause du Seigneur, on dit bien à cause du Seigneur, le Seigneur se glorifie. C'est un appel à accepter les épreuves à cause du Seigneur, l'affaiblissement à cause du Seigneur, la souffrance à cause du Seigneur. Parce qu'à travers tout ça, Dieu va se glorifier. C'est un appel à ne pas s'imposer sur les autres en pensant qu'en parlant beaucoup, c'est là qu'on va les convaincre. C'est un appel à dire les choses et à laisser Dieu convaincre, à ne pas s'imposer par des raisonnements multipliés. Et c'est ce que le frère Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 2. Je n'ai pas fait de grands raisonnements pour vous convaincre. J'ai préféré être simple dans ma simplicité. Le Saint-Esprit allait vous convaincre. C'est-à-dire, c'est le même schéma que la croix. C'est la faiblesse, la simplicité qui permet que Dieu touche les autres. Vous allez me dire, mais il y a des gens qui font des choses sans la simplicité. La majorité des pasteurs aujourd'hui font les choses sans la simplicité. Ils s'habillent d'une manière particulière pour montrer qu'ils sont des ministres. Ils ont des voitures, des limousines pour montrer qu'ils sont des grands. Ils cherchent à tout prix que leur bâtiment brille de mille feux plus que les cinémas de ce monde pour montrer qu'ils sont grands. Et puis ça marche. Il y a beaucoup de gens qui les suivent. Oui, mais ces gens-là ne deviennent pas des chrétiens parce qu'ils suivent quelqu'un qui n'est pas selon le modèle de Christ. Ils deviennent des religieux de quelque chose, même s'il y a le nom de Jésus, mais ce n'est pas des chrétiens. Paul est clair là-dessus dans 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Il dit que si vous ne retenez pas l'évangile selon les termes que je vous expose, vous avez cru en vain. Donc si quelqu'un ne prend pas l'évangile tel que Jésus lui-même l'a vécu, l'a présenté, il est dans autre chose. Bien-aimé, c'est un appel que je fais à tous les chrétiens qui m'entendent. Le vrai christianisme, c'est imiter Christ, c'est imiter Paul. Paul lui-même est passé par là. Il nous dit, maintenant, j'ai compris. Ce n'est pas quand je suis fort que c'est important, c'est quand je suis faible pour Christ. Il le dit là, il dit, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Dans les faiblesses, pour Christ. Je me plais maintenant dans ça, je sais que quand je subis des défaites pour Christ, quand je ne réponds pas à celui qui m'a injurié, tout ça pour Christ, c'est là que j'ai plus d'impact. Quand nous sommes là, deux ou trois seulement à prier, et ça paraît comme infructueux, c'est là qu'on a beaucoup plus d'impact. Si nous gardons la foi que Jésus est là. C'est quand nous semblons faibles et qu'on a quand même la foi, c'est là que les grandes choses se passent, mais on ne voit pas forcément. C'est comme quand Jésus mourait à la croix. Qui voyait que les démons étaient vaincus? Personne. Mais c'est pourtant la Bible dit dans Colossiens 2,14 que c'est là-bas que les démons étaient vaincus à la croix. Ce n'est pas à la résurrection, c'est à la croix qu'ils ont été vaincus. Tout le monde voyait quoi? Une défaite. Donc c'est quand tu es tout seul dans une ville et qu'il n'y a pas d'autre chrétien que toi, et que toi, par la foi, tu crois qu'à la croix, Jésus a sauvé aussi cette ville-là, c'est là que tu verras cette ville-là changer à travers tes prières. Les prières en elles-mêmes, c'est quoi? C'est la croix. Parce que les prières, ça paraît comme inutile. Tu crois qu'en parlant seulement comme ça, que là-bas, les choses vont changer? Mais c'est ça. C'est ça. La prière, c'est une forme d'humiliation, une sorte de chose inutile. Parce que, mais, vous savez, on n'a plus beaucoup de temps, cet exemple-là de ce monsieur, de cette dame qui avait faim à l'époque dans le 18e, 17e siècle. Elle n'avait plus rien à manger chez elle. Et à l'époque, les gens, quand ils priaient, ils ne parlaient pas. Ils écrivaient la prière et lisaient la prière. Et elle a écrit sa prière pour demander la nourriture à Dieu. Et elle a amené ce papier-là au marché. Arrivé devant le marchand, il lui tend la prière pour lui donner de la nourriture, au lieu de lui tendre de l'argent. Le marchand regarde la prière et dit, mais juste une prière, qu'est-ce que ça veut, ça peut, ça, quel est le poids d'une prière? Le marchand prend, à l'époque, les gens achetaient sur des plateaux, hein, quand tu amènes ton argent, tu veux 15 kilos de nourriture, on te met des poids de 15 kilos à gauche et on met la nourriture à droite sur un autre plateau, sur des balances, sur une balance. Et le marchand prend le papier de la prière, il met sur un plateau et il commence maintenant à mettre la nourriture de l'autre côté. Vous savez que c'est le papier qui a été plus lourd que la nourriture. Et il a ajouté la nourriture de sorte que le panier du plateau a pris beaucoup de nourriture jusqu'à déborder et le papier était toujours plus lourd. Il a été obligé de donner la nourriture à la dame. Non, c'est ça la prière, c'est la croix. Que tu es là tout seul dans une ville, tu sais que si tu veux le réveil, ton Dieu va t'écouter. Vous êtes à deux, vous êtes à trois. Mais il faut accepter ça. Il y a des gens qui veulent à tout prix que les choses se passent en fanfare pour croire que Dieu est là. C'est faux. L'apôtre Paul dit, maintenant je me réjouis des faiblesses, des épreuves, des persécutions. Pour Christ, quand j'accepte d'être seul pour Christ, mais c'est là qu'il glorifie son nom. Quand j'accepte qu'on soit quatre pour Christ, c'est là qu'il glorifie son nom. On paraît faible, humilié. Quand j'accepte de prendre du retard, parfois c'est du retard, tu te dis, mais je vais perdre 2 ans, je vais perdre 1 an, j'ai perdu 15 ans, j'ai perdu 20 ans. Il y a des gens qui disent, ah, j'ai atteint 55 ans, je n'ai toujours pas de maison. Si c'est pour Christ, sache que ce que tu auras va être 1000 fois plus grand qu'une maison. Si tu as peut-être 58 ans, c'était pour Christ que tu te retrouves dépouillé, ne t'inquiète pas, tu seras surpris. Et vous savez, y a les plus grandes récompenses, c'est où? C'est au ciel. Là, ça ne change plus. Dès que tu as ça, ça ne bouge plus. Et pour finir, je veux parler de la reconnaissance. Quand on sait que notre grand frère, notre maître, notre Dieu, Jésus, a subi une telle humiliation que c'en est un scandale et une folie pour comprendre ça, on ne peut être que reconnaissant envers lui. Vivre dans la louange éternelle pour son nom. Nous lisons d'Apocalypse 5 pour clôturer, voir la louange qui est faite pour le compte de Jésus. Apocalypse chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais, c'est le livre de la colère de Dieu parce que à cause des péchés des hommes, beaucoup de ceux que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Vous voyez, il dit, qui a vaincu? C'est un lion. Mais il a vaincu comment? En venant comme un agneau. C'est ce qu'on voit dans la suite. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau. Donc ce lion-là s'est transformé en agneau pour venir nous sauver. Ouais, il s'est affaibli pour venir nous sauver. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, de louange et d'adoration. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et des milliers, de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen, amen. L'agneau est digne de louange et bien aimé toute notre vie. Nous allons le célébrer, le glorifier. Voilà, bien aimé, ce que, comment nous saisissons la logique du scandale. Cette logique finit par nous amener à la reconnaissance, à la louange. Ô Père, merci pour ton amour manifesté par le don de ton Fils Jésus. À toi la gloire, la louange. Aide-nous à imiter nos frères Paul et, les autres apôtres dans la logique de la croix pour sauver l'humanité. Merci pour tout, au nom de Jésus, Papa, nous te bénissons. Amen.